Alors que Dieu vous bénisse. C'est toujours une grâce et une bénédiction de pouvoir apporter le message de la part de Dieu. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu cette occasion à cause de beaucoup de circonstances, surtout les problèmes de la santé. Mais le Seigneur est bon. Il m'a donné cette occasion de pouvoir aujourd'hui vous apporter le message de sa part. Alors, j'aimerais que nous puissions partager la parole que nous lisons dans Luc chapitre 18. Versets 1 à 8. Et j'aimerais demander au frère Parfait de lire pour nous. Oui. Donc, Luc, chapitre 18, versets 1 à 8.
Luc 18, 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen.
Amen, amen. C'est une parabole que Jésus a adressée à ses disciples. Au monde qui l'écoutait à ce moment-là. Mais nous voulons voir qu'est-ce qu'est une parabole. Une parabole, c'est une histoire, tout simplement. Une histoire allégorique, un récit. Récit allégorique qu'on raconte pour faire passer un message très important, une leçon très importante. Dans le monde, nos chrétiens, on pourrait dire pour passer, je dirais, une leçon de morale. Alors, c'est ce que Jésus a utilisé à ce moment. Vous savez que quand Jésus enseignait, il s'inspirait des choses de la nature, des choses que le monde connaisse, pour passer son message. Parce que toujours, il nous trouve à l'endroit où nous sommes. Il vient jusqu'à notre niveau pour que nous puissions lui comprendre. Comprendre ce qu'il nous dit. C'est ce Seigneur que nous avons. Alors, dans cette parabole, Jésus enseigne à ses disciples, il y a à peu près de 2000 ans. Et bien sûr, il enseigne aussi à nous, aujourd'hui, l'importance d'une prière. D'une prière, pas seulement une prière ordinaire dont nous avons l'habitude d'utiliser, mais une prière agressive, une prière désespérée. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à un moment où vous adressez à Dieu une prière désespérée. Une prière agressive. Parce que vous n'avez pas d'autres moyens, vous n'avez pas d'autres recours, vous n'avez pas d'autres ressources. Alors, cette veuve-là, cette parabole, nous raconte. Donc, il vient nous montrer. Justement, Jésus a dit. Donc, toutes ces sortes-là, c'est jusqu'à ce qu'il le fait, jusqu'à ce que la réponse est donnée. Et puis, cette parabole nous montre l'obstacle. Donc, au fait que quand on a un sujet de prière très pressant ou un problème de vie ou de mort à adresser à Dieu, il faut toujours prier et ne point le lâcher ou se décourager ou abandonner comme souvent nous faisons parce que nous prions quand ça ne passe pas. On reste. On va chercher d'autres solutions. Mais ce n'était pas le cas de la veuve ici. La veuve a continué. Parce qu'il est question qu'elle demandait justice à un juge. Un juge unique. Unique, qui ne voulait pas l'écouter, qui ne voulait pas lui donner la considération. Mais il a continué. Il a continué à aller à prier jusqu'à ce qu'elle a trouvé la réponse. Et l'introduction de l'évangéliste de Dr. Luc au verset 1, donc du chapitre 18 dans Luc, laisse entendre que nous manquons parfois de muscles spirituels pour soutenir un combat dans la prière, parce que nous manquons aussi la foi comme sœur de la veuve dans la parabole de Jésus, où il dit, Jésus lui adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se le lâcher. Autrement dit, sans jamais se décourager, il ne faut jamais se décourager quand nous prions. Sans jamais abandonner la bataille que nous menons dans la prière. Alors, j'ai donc intitulé ce message « La prière agressive et persévérante d'une veuve qui a une foi extraordinaire » donc dans Luc, comme vous l'avez déjà nous l'avons lu. Et puis, je l'ai subdivisé dans 4 points. Le premier point, Jésus nous dit que nous manquons foi, quelquefois, le courage de continuer à prier sur le long terme. Ça fait, il y a un problème qui est là. Ce problème, nous l'adressons à Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions. À un moment donné, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Nous abandonnons, nous quittons. Ou bien, quand nous prions pour les autres, Dieu nous met à cœur de prier pour un fardeau de quelqu'un d'autre, d'un frère, d'une sœur, ou des membres de la famille. Nous prions, nous prions, nous prions avec zèle, avec volonté. À un moment donné, le fardeau diminue jusqu'à disparaître. Est-ce que ça vous est arrivé? Mais Jésus nous enseigne autrement. Il veut que nous ayons ce courage de continuer tout au long jusqu'à ce que nous trouvons la réponse. Parce que Dieu veut nous écouter. Nous allons le voir dans la suite. Il veut nous donner. C'est dans sa volonté. C'est un père. C'est notre papa. Il veut nous faire du bien, mais il attend que nous nous exprimions devant lui. Qu'est-ce que nous voulons? Souvent, il nous donne comme un père parce qu'il connaît nos besoins. Mais quelquefois, il y a des besoins où nous devons aller vers lui et lui demander, Père, j'ai besoin de ceci. ou peine, il y a ce fardeau, peine, il y a ce problème, je te demande de m'assister, je te demande de m'aider. Alors Jésus veut que nous soyons davantage comme cet évêque, bien déterminé dans sa foi et dans sa prière. Il n'a fait aucune influence pour être respecté. Elle était une veuve ou pour être considérée dans sa société. Car au temps de Jésus, les femmes, que ce soit veuves, que ce soit les femmes normales ou ordinaires, n'avaient pas leur place, surtout dans les procédures judiciaires. Elles ne pouvaient pas aller. C'était son mari ou c'était un membre de la famille qui est de sexe féminin, de sexe masculin, qui est un homme. Alors qu'elles doivent comparaître elles-mêmes devant le juge, montre qu'elle était complètement isolée, elle était seule, elle n'avait pas de famille. Son isolement pourrait bien être la raison pour laquelle elle a été négligée et éventuellement exploitée par son juge unique, qui devait plutôt lui rendre justice. Son manque de moyens matériels est peut-être aussi la raison d'être pour laquelle elle a perdu son procès à maintes reprises. Parce qu'elle est allée plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Vous allez le voir en dessous, ce que le juge, finalement, quand il était agacé, ce qu'il a dit, et puis il a été obligé de lui donner la justice. Il n'avait pas de moyens. Vous savez, dans le monde ou dans les milieux judiciaires, il y a beaucoup de corruption. Mais elle n'avait rien pour donner. Elle était veuve. Parce que les femmes comptaient sur leur mari, sur ce que le mari pouvait amener à la maison, amener à table. Après sa mort, une veuve était à la merci de tout le monde. Et c'est pourquoi Jésus a enseigné aux pharisiens, aux sadduciens, les jugea, pourquoi vous allez vous dans des maisons de veuves pour profiter de leur faiblesse, leur donner quelque chose, un peu de rien du tout, pour pouvoir les exploiter comme une veuve. Alors, ce juge ne s'intéressait pas à la justice. Il était juge, mais la justice ne lui disait rien. C'était un juge inique, comme Jésus l'a appelé. Il était méchant. Il n'avait pas d'égard à personne, ni d'égard à Dieu. Il ne s'occupait, il n'avait pas donc donner attention aux opinions des gens ni au dessein de Dieu. Il appréciait la position qu'il occupe et pour voir que ça lui donne dans la communauté. Ça lui donnait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Et probablement, comme nous l'avons cité plus haut, les points de vue qui peut recevoir de ses clients. Par contre, la veuve n'a aucune influence. Il n'a pas de considération dans sa société, de qui que ce soit. Alors le juge ne la voit pas comme une menace. Vous savez, quelquefois, il y a des autorités qui font des choses pour les gens parce qu'ils les voient comme des menaces. va, si je ne reviens pas, il va me rapporter plus haut. Il va donner le rapport. Je risque de perdre ma position. Quelquefois, ils offrent par l'obligation. Mais ce juge unique, il savait que la veuve n'avait aucun moyen. Elle était juste à la merci de tout le monde. Et c'est pourquoi il a négligé. Il s'est promis donc de faire n'importe quoi. Il a bafoué même ses droits de base de la veuve. Ça fait tout le monde a besoin de la justice dans chaque pays, dans chaque société. Mais lui, ça ne lui disait rien, son juge-là unique. Pourtant, la veuve a le courage de demander, de venir tous les jours demander. Et de continuer de demander. Il y avait tous les jours. Imagine. Tous les jours. Ok. À la porte de son chichinique. Ok, à son bureau. Je viens pour la question que vous connaissez. Je viens demander la justice. Et puis l'autre. Leur chasseur. Mais elle continue à venir. N'a pas relâché. Elle n'a pas abandonné. Ne s'est jamais découragée. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé la justice qu'elle recherchait. Cette femme s'obstinait. Tellement est il harcelé le juge sans aucune pitié. Vous savez, quand vous n'avez plus rien à perdre, c'est que vous me comprenez. Quand c'est question de la vie ou de mort, vous n'avez plus rien. Si vous mourrez, vous mourrez. C'est comme, là, c'est la mort. Donc, elle est allée, elle a continué à aller jusqu'à ce que le juge décide de lui faire justice simplement pour lui faire taire parce qu'il dit, je vais l'empêcher de venir sans cesse. C'est ce que la Bible dit. Pour qu'il ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Ça, c'est la prière. Nous n'avons pas besoin de faire ça à Dieu, parce que Dieu est notre Père. Il ne va pas nous traiter comme ça. Mais il veut que quand même, nous montrions que nous voulons, que nous avons besoin de quelque chose, que nous voulons cette chose. La Bible nous dit que quand vous avez demandé, croyez que vous avez cette chose. Parce que lui donne. Mais nous n'avons pas cette chose. Parce que nous n'insistons pas, parce que nous n'allons pas prendre cette chose dans la prière. Je vais empêcher cette femme de venir sans cesse me casser la tête. Au verset 5 de Luc 18, je vais lui donner ce qu'elle veut, qu'elle me donne la paix. Voilà. La femme a trouvé justice à cause de sa persistance. Qu'en est-il des prières, ça c'est le point 3, qu'en est-il des prières que nous, en tant que croyants, adressons à Dieu? Nous, les chrétiens, comment est-ce que nous adressons nos prières à Dieu? De quelle manière? Nos prières, dit Jésus, doivent être aussi courageuses et persistante comme la prière de la veuve dans le passage qui nous a été lu, en ayant la foi ferme que cette prière sera entendue et exaucée par notre Père céleste. savez, aucune prière ne peut pas être efficace sans que celui qui fait la prière ait la foi déterminée. C'est cette foi déterminée qui a fait marcher la femme tous les jours à quelqu'un qui ne la veut pas, qui ne veut pas d'elle, qui la méprise, qui la voit comme n'importe quoi. Mais cette foi l'a soutenue, l'a encouragée, l'a portée d'arrêt tous les jours jusqu'à ce qu'elle la trouve. Nous envoyons nos prières, donc nous adressons nos prières à Dieu, notre Père céleste. Et n'est-ce pas Jésus lui-même qui nous dit au verset 7 et 8a, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à les regard ?» Je vous le dis, il les fera et promptement justice. Ceci me rappelle la prière du roi Ézéchias. Vous connaissez le roi Ézéchias, le roi des Juifs? Vous savez, il est tombé malade et il était longtemps malade. À un moment donné, Dieu envoya le prophète Ésaïe pour lui dire, prépare ta maison, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir, tu dois mourir. C'est Dieu qui avait décrété qu'il doit mourir, qu'il mette de l'ordre dans ces choses. Et vous savez ce que Ézéchias a fait dans sa prière? Il s'est tourné là où il est sur le lit de malade, donc sur sa couche, là où il était comme malade, devant Dieu, lui seul, dans un lieu caché. Il a pleuré. Le roi a pleuré. Il a dit, Seigneur, il lui a appelé, moi j'ai sanctifié le pays, j'ai détruit les idoles, j'ai ramené le culte dans le peuple d'Israël. Il lui a appelé donc ce qu'il a fait pour Dieu dans sa prière. Et la prière, ce n'était pas la prière que, donc, je dirais, la prière normale que nous connaissons, comme nous nous adressons à Dieu. Lui, c'était comme Jonas, quand il était jeté dans l'eau et avaré par le poisson. Et au-delà du poisson, il a prié. Une prière extraordinaire, une prière désespérée. C'était la prière du roi Ézéchias. Et Dieu a écouté ses doléances, sa prière. Dieu a changé d'avis. Comme le juge unique a changé d'avis pour faire justice à la veuve, Dieu aussi a changé l'avis pour redonner la vie à un roi Ézéchias. Et il lui a ajouté 15 ans de vie. Le prophète Ésaïe était en route vers lui après avoir livré le message. Et Dieu lui a dit, hey, retourne chez le roi et dis-lui ceci, que j'ai écouté ses prières et que j'ai vu ses pleurs, ses larmes. Et je lui donne encore, je lui ajoute des années à vivre. Je lui donne 15 ans de plus. Le bonus de 15 ans, il a trouvé à cause de la prière et de la foi. Le point 4, comment la foi et la prière vont toujours ensemble? Il n'y a pas de prière sans la foi. La foi peut se soutenir seule, Mais la prière ne peut pas sostenir dans ça la foi. La prière a besoin de la foi pour faire son travail, pour convaincre celui à qui vous adressez la prière, pour changer le cœur de celui à qui vous l'adressez. Je dirais que la foi est un ingrédient très important et je dirais aussi indispensable dans notre vie de prière. Elle est comme un moteur qui propulse nos prières pour qu'elles arrivent là où nous voulons les adresser, qu'elles arrivent à Dieu. Ça, la foi, nos prières ne peuvent pas dépasser ce plafond. Vous l'avez expérimenté. Je l'expérimente quelquefois moi-même. Je prie, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Je manque la foi. Il m'arrive aussi, souvent, que j'envoie mes prières, mais mes prières ne veulent pas aller. Parce qu'il n'y a rien qui les pousse, il n'y a rien qui les donne la force d'aller, de percer jusqu'à l'endroit où. Alors, j'ai besoin de la foi pour pouvoir bien prier. C'est la foi qui inspire nos prières. C'est la foi qui nous donne le courage. C'est la foi qui nous donne la force et la détermination de faire ce que nous ne pourrions faire par nous-mêmes, surtout dans le domaine de la prière. La foi, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui nous aide à faire des choses normalement que nous ne pourrions pas faire. Je voudrais vous renvoyer, quand vous aurez le temps, quand vous serez à la maison, d'aller lire Hébreux chapitre 11 pour que vous voyez les héros de la foi qui ont fait des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires, des choses impensables à cause de la foi. Ils ont prié par la foi et ils ont déplacé des montagnes, ils ont fermé la bouche des lions, ils ont fait des choses impensables à cause de la foi. C'est par la foi que la veuve de notre passage, là, de notre message, qui a pu vaincre la peur et les tabous culturels de son temps. Vous savez, dans toutes les sociétés, il y a des tabous. Les femmes ne doivent pas faire ceci. Les filles ne doivent pas faire cela. À ce moment-là, les dames ne pouvaient pas mettre les pieds dans les tribunaux. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi c'était les hommes qui statuaient les autres? Alors, ils se mettaient là où c'est bon et puis les autres, ils les mettaient à côté, dans des endroits inconfortables. Mais, bien sûr, la foi l'a aidé à affronter sans scrupule et sans relâche le juge unique qui ne voulait jamais lui faire justice jusqu'à ce qu'elle a obtenu. Je vous ai envoyé dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, pour lire la liste de ceux qui ont la foi et ceux qui les ont fait. Le juge unique a finalement fait justice à la veuve, malgré lui, comme il exprime dans ses propres mots au verset, je le répète, au verset 5, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse. C'est sans cesse. La foi est sans cesse. La foi, c'est comme une source d'eau, de rachute qui est là toujours, toujours. La foi doit être comme ça. Sans cesse me casser la tête. Répéter la même chose. Sans cesse. Ceux qui ont des familles, des couples qui ne fonctionnent pas bien. Ou un membre du couple. Sans cesse. Dites des choses qui cassent la tête de son conjoint ou conjointe. Et sans cesse, imaginez. C'est là où vous voyez que les gens peuvent toquer. Perdre la tête. Ou bien faire des bêtises. Jusqu'à même à commettre le meurtre. Parce que sans cesse, sans cesse, sans cesse. Sans cesse, ça devient une torture. Ce juge unique avait le pouvoir, c'est l'autorité, mais c'est comme il était torturé par la simple veuve. Une simple veuve l'a torturé. Jusqu'à ce qu'il a cédé pour avoir la paix. Incroyable. Au verset 6, le Seigneur Jésus, il a dit quelque chose qui m'a étonné et qui doit vous étonner aussi. Est-ce que vous avez entendu ce que le juge unique a dit? Il disait donc à ses disciples, est-ce que vous avez entendu les paroles que je viens de vous dire du juge unique. Est-ce que Jésus a dit, est-ce que vous avez entendu ce que le juge unique a dit? Il a dit, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai la justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et Jésus de dire, le Seigneur Jésus ajouta, entendez ce que le juge unique dit. S'il dit cela, au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, au verset donc 7. Et tardera-t-il à les regarder, et verset 8, je vous le dis, il les fera promptement justice. Parce que Dieu ne peut pas nous faire attendre. Il ne peut pas nous mettre sur la queue. Quand nous allons à Dieu, nous n'avons pas besoin de faire la queue. Là où tu es, tu lui adresses, il t'écoute. Même si tu es dans le cachot, même si tu es tombé, je dirais, dans un trou, tu cries à lui, il t'écoute. Il n'a pas besoin de protocole. Vous me comprenez? Un papa n'a pas besoin de protocole pour recevoir son fils, son enfant ou sa fille. Ou une maman. Il crie, il dit, oh, venez. Qu'est-ce qui se passe? Il te console. Si nous demandons à Dieu, c'est automatique. Mais comme je vous dis, même Jésus, quand il guérissait les gens, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour susciter sa foi, pour montrer que c'est vraiment la personne qui demande, qui veut être guérie, s'il avait besoin de la guérison, qui a besoin de la guérison. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais recouvrir ma vie. Ta foi t'a sauvé. Vous vous rappelez de ça? Ta foi t'a sauvé. Ensuite, Jésus pose une question très importante au verset 8b et qui défie tous ces interlocuteurs d'alors et nous aussi aujourd'hui. Surtout que nous sommes une génération plus ou moins proche de ce retour par rapport à la génération qui s'adressait initialement. Écoutons-nous sa question. Mais, la question de Jésus que Jésus a posée. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes amis, nous sommes proches de sa venue. Et il nous pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il va, il trouvera, donc il va trouver la foi sur la terre? Pourquoi Jésus a posé cette question à ses disciples? Et pourquoi il nous la pose ce matin? Car le Fils de l'homme viendra sur la terre. Est-ce qu'il trouvera la foi? Je crois que quand Jésus a posé cette question, il faisait allusion à la foi de la veuve. Donc, il voulait que nous puissions suivre l'exemple de la veuve, imiter la veuve dans nos prières. Si je paraphrase bien sa question, je dirais ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre comme celle de la veuve? La foi personnelle, la foi persévérante et la foi radicale qui peut importuner le juge unique, qui peut importuner même le diable. Pas seulement une fois, pas seulement cinq fois, pas seulement dix fois, mais sans cesse. Sans cesse. La prière, c'est sans cesse. La foi, c'est sans cesse. Comme le juge dit lui-même dans au verset. Il a été obligé de faire la justice, de rendre justice pour avoir la paix. Nous avons aussi besoin de la foi pour faire ce que notre prière touche le cœur de Dieu et l'amène à changer de décision à notre égard, si c'est dans sa volonté. Parce que souvent, nous pouvons demander des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Des choses même qui ne sont pas bien pour nous. C'est comme un enfant qui peut demander une lame de rasoir. Un enfant de 2 ans, de 3 ans, d'une année, à sa mère, donne-moi le rasoir, je vais couper les choses. Si tu lui donnes le rasoir, il y a des dégâts qui vont se produire à un enfant. Et souvent, nous pouvons adresser une prière de la sorte à Dieu. Et quand c'est une chose, une prière qui n'est pas dans sa volonté pour nous, et une prière qui n'est pas bonne pour nous, qui est un danger pour nous, Dieu n'exaucera pas cette prière. Pour notre bien. Il faut que nous le sachions. Il faut que nous le comprenions. Mais mes amis, je vous dis, si Jésus pose cette question, c'est qu'il a vu. Il a vu ce qui se passe. Nous prions, nous avons la foi et nous prions, mais à côté, nous avons d'autres alternatives. Souvent, quand je lisais ce passage, quand je préparais, je me suis dit, mais si j'étais la veuve, j'irais dans un autre tribunal et laisser celui-là qui m'ignore. Ou bien j'irais directement à son supérieur pour me plaindre. Nous avons des alternatives avec la foi et avec la prière, qui sont un obstacle d'avoir une prière radicale, une prière sans relâche, une prière sans cesse. J'ai des allergies qui me démangent. Hier, je n'en pouvais plus. C'est comme ça me faisait tellement mal que j'allais m'évanouir. Je priais pour que Dieu m'aide, que me guérisse. Mais en prière, je suis allé prendre un comprimé antihistaminique contre l'allergie. C'est une alternative. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien, ça m'a aidé pour que je continue à préparer le message, à faire ce que j'avais à faire. Mais souvent, nous avons des alternatives qui ne nous aident pas à aller au fond pour prier, pour insister, pour insister. Et donc, pour justement faire comme la veuve. Et souvent, ça nous donne des distractions. Ça nous empêche à continuer la prière parce que nous avons trouvé une solution aléatoire. Une solution qui est comme donner un bonbon à un enfant qui avait faim. Et puis, ça fait apaiser, il croit que ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Quand nous allons vers Dieu lui demander quelque chose ou lui demander une solution, nous voulons une solution définitive, une solution éternelle. Mais souvent, ces alternatives, mes amis, gardez-vous. Nous sommes dans un siècle de la technologie tellement élevée où il faut peser sur le bouton et vous avez tout ce que vous voulez. Et souvent, nous voulons que Dieu agisse comme ça. Et quand il n'agit pas comme ça, nous abandonnons, nous quittons. Nous abandonnons la prière. Demandons à Dieu, au nom de Jésus, d'augmenter notre foi, même si c'est une petite foi, comme une graine de la moutarde qui peut déplacer une montagne et la jeter dans la mer. C'est l'enseignement de Jésus dans Luc chapitre 17, verset 6. Vous vous rappelez quand il a dit à ses disciples, si vous avez la foi petite comme un grain de la moutarde, peut-être vous ne connaissez pas, nous n'avons pas vu un grain de la moutarde, mais vous avez tous vu un grain ou une graine du chia. Le chia, vous connaissez? Le chia, donc chia. On voit des petites choses comme des petits, rien du tout. Tu ne peux pas le ramasser avec eux. Tu ne peux pas. C'est tellement petit. Mais si, ils ne nous demandent pas beaucoup. Si vous avez la foi comme comme ce petit grain de la moutarde ou du chien, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous pouvez demander que Dieu fasse un chemin dans la mer que vous allez passer. C'est ce qu'il nous demande. Alors, demandez aussi à Dieu de nous enseigner à prier selon sa volonté, mais surtout à augmenter notre foi et à nous donner le courage de prier. Que Dieu nous bénisse tous et nous aide à mettre en pratique cette parole pour que notre foi puisse grandir et que nos prières soient efficaces pour nous et pour les autres. Il y a des choses autour de nous qui sont toujours là, des maladies que nous avons, que moi-même j'ai, mais sont toujours là. Tout est possible. Dieu a tout donné. Mais notre problème, c'est de recevoir, surtout à cause des alternatives. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, parce que tu nous as permis de venir à ta table. Tu nous as permis d'être à ton écoute ce matin. Tu nous as permis de découvrir et de comprendre des choses que nous ne comprenions pas avant. Nous te demandons, Seigneur, de les mettre en pratique, aidé par ton esprit. Parce qu'il est là pour nous aider. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous expliquer ce que nous n'avons pas compris. Il est là pour illuminer ta parole, pour que nous puissions comprendre. Seigneur, fais que tes enfants, que ce soit ceux qui sont ici en présentiel, ou ceux qui sont sur le Zoom, ou ceux qui vont lire ou écouter ce message sur YouTube, ou sur l'Internet, Seigneur, que leur foi puisse être augmentée et que les prières, Seigneur, puissent aller même au-delà des nuages pour atteindre le ciel, atteindre Dieu notre Père, pour que nous puissions avoir la réponse à nos problèmes, même la réponse aux problèmes du monde où nous habitons, parce que ce n'est pas seulement nous qui devons prier pour nous-mêmes, mais devons aussi prier, intercéder pour les autres, pour nos pays, pour notre nation, même pour le monde entier. Bénis-nous, Seigneur, sois avec nous. Aide-nous, Seigneur, à aimer ta parole, à lire ta parole. Merci, Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.